Bonsoir. Au chapitre des informations, pour commencer par une page d'actualité, je vous invite à bien noter dans vos calepins la date du 10 juin, comme d'habitude à 20h, car tout ce que nous faisons est à 20h, où se tiendra la réunion de fin d'année avec un côté amical. On pourra boire quelques verres et manger quelques nourritures. Et puis, avec donc un aspect de rencontre, mais la présentation aussi du programme de l'année prochaine, qui vous permettra donc de... qui est déjà assez avancé. Il ne sera peut-être pas entièrement bouclé, mais il y a des chances qu'il le soit. Et donc, ça vous permettra déjà de faire vos choix et de faire connaître aussi autour de vous les propositions du Collège supérieur. Il y en aura l'année prochaine d'originales. Alors, parmi d'ailleurs les propositions, il y en a une sur laquelle j'insiste, car elle apparaîtra avant notre rentrée. J'ai eu l'idée singulière de faire une nuit Peggy pour la commémoration du centenaire de la mort de Peggy, qui est l'occasion d'un certain nombre de manifestations. Et cette nuit Peggy aura lieu le jour de la mort de Peggy. Peggy a très mal choisi la date pour se faire tuer, puisqu'il a été tué le 5 septembre 1914, au tout début de la guerre. Et donc, le 5 septembre, nous aurons une nuit Peggy qui se déroulera à Fourvière, dans les locaux de la Fondation de Fourvière, avec une vue somptueuse sur Lyon. L'objectif étant de réciter au soleil levant le début de l'ève de Peggy face au soleil qui se lève sur la création. Mais évidemment, pour arriver au petit matin, il faut toute la nuit. Donc il y aura des représentations théâtrales avec entre autres la très belle représentation de Jean-Paul Lucet. Il y aura un certain nombre de scènes qui seront montées. Toute la mise en scène de la nuit dans son ensemble étant confiée à Marie-Cécile Dumanoir. Il y aura un certain nombre de personnalités dont par exemple Fabrice Adjadj, etc. Je vous tiendrai au courant du programme. Je vous invite de manière pressante à retenir cette date singulière, la nuit du 5 au 6 septembre. Je suis un peu inquiet quant à la communication, étant donné qu'il y a encore des gens qui ont l'impression d'être en vacances dans ces dates-là. C'est un vendredi, c'est la nuit du vendredi au samedi. Nous concluons notre cycle sur les grandes morales par l'ouverture de quelques pages de Sartre, qui est essentiellement un moraliste. Conclusion, peut-être pas au sens où ces conclusions nous apporteraient les réponses aux questions que nous avions initialement posées, mais en tout cas, conclusion au sens où ce que nous allons exposer de Sartre correspond tout à fait à ce qu'est notre perception, votre perception probablement, de la morale. Vous allez y reconnaître les mots qui vous sont familiers. Vous allez y entendre sincérité, authenticité, projet, engagement, valeur. Tous les mots qui nourrissent actuellement notre discours moral, qui parle de l'essentiel, c'est d'avoir un projet, de défendre ses valeurs, etc. Pour bien rentrer dans l'intelligence de cette morale sartrienne, il est peut-être bon, surtout que tout le monde n'était pas là au commencement, j'en vois qui n'était pas là au commencement, il est peut-être bon de rappeler ce que j'avais dit au début en disant qu'au fond, il y avait trois grandes morales. Morale de l'excellence, qui correspond à la vertu antique, l'homme qui accomplit de manière juste la fonction qui est la sienne, qui est arrêté, vertu, que l'on traduit par vertu, veut dire excellence. Morale de l'excellence, morale du devoir que nous avons découverte avec Kant la dernière fois. Et enfin, donc, morale de l'authenticité, qui est à peu près l'état de nos mentalités actuelles. Rappelez-vous l'apologue qui m'a servi tout au long, « Fumer tue ». Et alors, cet exemple m'a servi à rappeler que le sage, c'est celui qui sait, mais qui agit en fonction de ce qu'il sait. Savoir est une chose, agir en fonction de ce qu'on sait, c'est une autre. Fumer tue. Et donc, fumer tue nous conduit à penser que la morale consiste d'abord, et c'est ce que nous avons vu avec les anciens, à observer l'ordre des choses. Voilà ce qu'il en est. Voilà ce qui est donné dans la réalité. Mais nous avons vu avec Kant la dernière fois que l'affaire est singulièrement plus difficile, car il n'y a pas nécessairement un devoir directement lisible dans l'ordre des choses. Fumais-tu ? Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que je m'arrête de fumer ? Fumais-tu est un constat. Comment passe-t-on d'un constat à un devoir ? Comment passe-t-on d'un constat à un impératif ? Si après tout, il me plaît à moi de m'offusquer les bronches. Et ou si je veux exercer ma liberté précisément en me détruisant ou que sais-je. Donc ce que Kant nous a bien permis de comprendre, c'est que il n'y a pas de conséquence de l'être au devoir être. Il n'y a pas de conséquence de ce qui est à ce que l'on doit faire. Ce n'est pas parce qu'il en va ainsi que je dois y trouver un impératif. Donc, auf Deutsch, il n'y a pas de conséquence du Sein au Sollen. Et c'est ce qui va sans doute nous permettre ce soir d'introduire l'idée de valeur. Parce que j'insisterai avec Sartre sur le fait que qu'est-ce qui introduit une valeur ? Ça n'est précisément pas un fait, mais une volonté lisant ce fait. Une valeur est introduite dans le monde par une volonté. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'idée de sagesse vole en éclats. Il ne s'agit plus de vouloir ce qui est, ce que nous dit la sagesse. On a insisté dans les sagesses antiques. Regarde bien l'ordre des choses. Il ne s'agit non plus de vouloir ce qui est, mais ce qui doit être, et même plus, ce qui vaut. Non pas vouloir ce qui est, mais ce qui vaut. Et pour cela, donc, il faut comprendre que c'est la liberté qui, précisément, est en mesure de s'opposer à ce qui est et d'opposer à ce qui est ce qui vaut. Et c'est ce que nous avons aperçu, justement, avec Kant dans la conception de la raison pratique comme, justement, cette capacité d'opposer ce qui doit être à ce qui est. Il en va peut-être ainsi, mais je m'y opposerai de toute ma liberté, car il vaut mieux opposer ma liberté que me soumettre à l'ordre des choses. Nous sommes aux antipodes d'une sagesse. Ce qui rend possible, c'est encore un petit rappel des épisodes précédents, j'espère que vous vous y reconnaissez. Ce qui rend possible cette rupture du constat et de la valeur de ce qui est et ce qui doit être, c'est l'irruption d'une science qui nous permet de connaître le monde, d'en lire les agencements, les mécanismes, les rouages, mais science qui, précisément, a pu s'élaborer comme science parce qu'elle est muette sur les valeurs. Et qu'elle s'est toujours, depuis qu'elle est science, c'est-à-dire depuis 3 siècles seulement, refusée à dire ce qu'il faut faire et quelles sont les valeurs. Et pourquoi ne peut-elle pas rendre compte des valeurs ? Parce que cette science est fondée essentiellement sur une démarche mécaniste, c'est-à-dire qu'elle interprète le monde comme un rouage fait de rapports de force. Ces rapports de force courent en aveugle selon la succession des causes, sans que pour autant donc, on puisse y lire un impératif d'une telle ou telle manière. Donc les espèces vont en aveugle au fil des temps, l'univers va en aveugle au fil des temps, cela ne me dit pas ce que je dois y faire, et même plus, puisque ce monde court en aveugle à l'enchaînement des causes, les protestations de ma liberté y sont singulièrement étrangères. J'aboie avec ma petite voix sous un ciel indifférent qui, lui, continue de faire rouler des sphères et des atomes dans le plus grand silence, le silence éternel des espaces infinis mais frais. Cette vision mécaniste de l'univers nous fait donc saisir de manière sublime et tragique, j'évoquais la parallusion, la très belle page de Pascal sur les deux infinis, lorsque Pascal ouvre la conscience à la contemplation de l'infiniment grand et de l'infiniment petit pour aboutir à la question « qu'est-ce qu'un homme dans l'univers ?» Et cette question « qu'est-ce qu'un homme dans l'univers ?» se pose à partir du moment où l'univers est lu justement de manière mécaniste. Comment une parole peut-elle être logée dans ce monde muet ? Comment une liberté peut-elle être logée dans ce monde mécaniquement réglé ? Si bien que cette vision mécaniste du monde rend possible, rend sensible, inévitable, la perception de la contingence du sujet. Contingence, ça signifie non-nécessité. Il n'était pas nécessaire que l'homme naquît. Il était encore moins nécessaire que je naquisse, sans doute. Laurent, je naquisse ? Merci. C'est un exercice périlleux. Donc, il était encore moins nécessaire que je naquisse. Et même la nécessité où je suis de mourir et de rejoindre l'ordre poussiéreux des choses me montre qu'il n'était pas nécessaire que je naisse. Et c'est ici que, si on comprend bien donc, cette étrangeté de l'homme jeté dans un monde qui, au fond, lui est étranger, saisi d'une liberté pour laquelle il n'a pas de point de repère en dehors de lui, puisque cet ordre des choses est muet, c'est ici que l'on peut comprendre la force, la pertinence de la thèse existentialiste, de la philosophie existentialiste. Alors, je ne vais pas faire un cours sur l'existentialisme, surtout que tout le monde se méfie des ismes, mais donc il y a tout un fil de la pensée philosophique qui justement part de cette expérience de la contingence du sujet. Au lieu de partir de la description des choses, part de l'expérience de la contingence du sujet. Et ce sujet donc étant alors appelé un existant. On l'appellera existant pour le distinguer soigneusement de ce qui précisément dispose d'une essence, dispose d'une définition. Ce sujet est libre parce qu'il est sans définition. Alors étant sans définition, on peut dire qu'il est libre parce que sa propre définition lui est confiée. Mais si sa propre définition lui est confiée sans qu'il trouve, dans l'ordre des choses, un bien fondé au choix qu'il va faire de lui-même. Ce choix qu'il va faire de lui-même peut paraître arbitraire, si bien qu'au moment même où la liberté va se fonder elle-même dans son acte, dans sa décision, cette décision peut rester comme marquée d'une absurdité, puisqu'après tout, j'aurais aussi bien pu apparemment vouloir autre chose. Fumais-tu ? Je peux aussi bien vouloir mourir, je peux aussi bien vouloir m'arrêter de fumer, je peux aussi bien passer une cigarette à mon voisin, je peux aussi bien faire du trafic de tabac, je peux faire des plantations, que sais-je. Voilà qui nous introduit directement donc à Sartre et à l'existentialisme athée de Sartre. Je n'insisterai pas sur la dimension historique et la filiation de l'existentialisme athée de Sartre par rapport à un existentialisme chrétien qui court de Saint-Augustin à Pascal, Kierkegaard, qui l'ont précédé de beaucoup. Pour comprendre Sartre, on peut partir de la distinction fondamentale du sujet et de l'objet. J'ai devant moi des objets. Ces objets sont offerts à ma connaissance. Ils seront connus de manière objective, tiens, c'est-à-dire susceptible d'une définition dans le temps et dans l'espace, susceptible de rentrer dans des lois, des prévisions. Donc le monde des objets est un monde sur lequel le filet du déterminisme peut facilement être jeté. Et donc je peux très bien décrire les mouvements des objets de manière parfaitement objective et mesurée, en les rapportant donc à un déterminisme. Le sujet, au contraire, est une question pour lui-même. Il n'a pas de définition en lui-même. Il est la source de ses prédicats. Et sujet, celui qui est la source de ses prédicats. Ce que Sartre résume en disant « Je ne suis pas libre comme la table est verte ». La table est verte, c'est un objet. Je rapporte l'objet à un prédicat de manière complètement mécanique et extérieure, objective. Je ne peux pas dire « Je suis libre ». Je ne peux que dire « Je le deviens ». Je ne suis pas menteur comme la table est verte. D'où d'ailleurs l'impossibilité de dire de quelqu'un qu'il est menteur. Je peux dire « il a menti », mais je ne peux pas dire « tu es menteur ». Si je dis à quelqu'un « tu es menteur », je l'objective, je le traite comme un objet. Et précisément si je me ressource à sa qualité de sujet, je peux dire donc qu'il est devenu menteur, qu'il a donc d'une certaine manière, qu'il a choisi d'être menteur. La table n'a pas choisi d'être verte, la table ne verdoie pas. En revanche, le sujet est source de ses propres prédicats, si bien que il est juste de dire que le devenir soi-même est au cœur du sujet. Ça, c'est le grand thème de Kierkegaard. Le devenir soi-même est au cœur du sujet. Au fond, dire « je suis comme ça », vous savez, il y a des gens dans la conversation qui disent « je suis comme ça ». Souvent, ils en sont fiers, d'ailleurs. Mais Sartre nous montre bien que dire « je suis comme ça », c'est précisément se traiter soi-même comme tout défini. Donc, c'est se traiter soi-même comme un objet. Et c'est donc donner à la liberté l'excuse d'être comme ça. Ben oui, je suis comme ça. On se refait pas. On se refait. Et donc, au lieu de dire on se refait pas, si on va au cœur de l'expérience de la liberté, on ferait mieux de reconduire le sujet à la responsabilité totale de soi, responsabilité sans excuse. L'affirmation de la liberté, c'est déjà ce que l'on aperçoit chez Descartes, ne peut pas être limité. Je ne peux pas être plus ou moins libre. Car si j'étais plus ou moins libre, cela voudrait dire que la liberté a commerce avec le déterminisme et que la liberté est circonscrite par le déterminisme. La liberté est donc, comme le dit Descartes, sans degré ni parti. Je ne suis pas un peu libre et un peu déterminé. Si je suis libre, je suis totalement libre. Et donc, si je suis libre, ça veut dire que je dois pouvoir revendiquer ou assumer. Vous voyez, vous reconnaissez encore un mot de nos contemporains. Assumer, j'assume. C'est fou comme nos contemporains assument. Si je suis libre, je peux revendiquer ou au moins assumer précisément tout ce que je suis. Sartre appelle, vous le savez sans doute, mauvaise foi. Les analyses de Sartre, de la mauvaise foi de Sartre, sont brillantes et géniales. Sartre appelle mauvaise foi toute attitude qui consiste précisément à s'excuser comme si on était une chose. Je ne l'ai pas fait exprès. Le contraire de la mauvaise foi, c'est la responsabilité, et la responsabilité, c'est tu l'as bien voulu. Entre je ne l'ai pas fait exprès qui me traite comme une chose, c'est la faute des autres, c'est mon voisin, c'est mes grands-parents. C'est les fatalités de la famille, etc. Entre je ne l'ai pas fait exprès qui me traite comme une chose et le tu l'as bien voulu dans lequel le sujet s'adresse à lui-même et se convoque à sa propre liberté, il n'y a pas de degré, il n'y a pas de dégradé. Sinon, cela voudrait dire donc que je me traite moi-même comme un objet dès l'instant que je me trouve des excuses. La liberté est sans excuse. Cette liberté qui est sans excuse est donc simultanément, vous l'avez compris, mais j'insiste, sans contenu. sans définition. Je suis libre, ça veut dire je suis sans définition. D'où la vanité de l'exercice psychologique qui consiste à dire « Qui êtes-vous, monsieur Untel ? Que voulez-vous qu'on réponde ?» Des questions comme ça. Parce que précisément, je suis qui et non pas quoi. Je pourrais répondre à « Quoi êtes-vous ? Qu'êtes-vous, monsieur Untel ?» Alors je réponds « Je suis professeur, je m'appelle Henri, j'aimerais bien réussir ma vie. Je peux répondre dans l'ordre du quoi, mais je ne peux pas répondre dans l'ordre du qui. Donc ma carte d'identité ne définit un objet parmi les objets, une fonction parmi les fonctions. Et c'est pourquoi Sartre peut affirmer à juste titre, je suis ce que je ne suis pas et je ne suis pas ce que je suis. La formule, Sartre est un pédagogue formidable, c'est le grand pédagogue, j'aurais vraiment rêvé de l'avoir comme professeur, et donc il a le don des formules synthétiques, donc je suis ce que je ne suis pas et je ne suis pas ce que je suis. Car dès l'instant qu'on me dit tu es lyonnais, je peux dire mais non, je ne suis pas lyonnais. Et dès l'instant qu'on me dit ah toi t'es bien un homme, je dis mais non, je refuse d'être traité comme un homme. Et toi, t'es bien, etc. Et chaque fois, au contraire, la liberté s'affirme par le refus d'être identifié à un quelconque stéréotype, pour reprendre un mot qui est devenu, pour d'autres raisons, à la mode. On peut rapidement ainsi parcourir pour quelques lignes de l'existentialisme est un humanisme, qui est une bonne introduction à la philosophie de Sartre. Pour ceux qui voudraient s'aventurer à lire de leurs propres yeux l'œuvre de Sartre, L'existentialisme est un humanisme est un livre qui a des défauts, comme tous les livres, mais qui est une bonne introduction. L'existentialisme athée que je représente est plus cohérent, donc il vient d'évoquer l'existentialisme chrétien. L'existentialisme athée déclare que si Dieu n'existe pas, il y a au moins un être chez qui l'existence précède l'essence, c'est-à-dire... Je suis, l'essence, c'est la définition. Donc je suis avant d'être défini. Il y a au moins un être chez qui l'existence précède l'essence, un être qui existe avant de pouvoir être défini par aucun concept, et que cet être, c'est l'homme, ou comme dit Heidegger, la réalité humaine. Qu'est-ce que signifie ici que l'existence précède l'essence ? Formule célèbre. Cela signifie que l'homme existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde et qu'il se définit après, et il faut insister sur le caractère réflexif du « il se définit ». Ce n'est pas « on le définit », sauf cas d'aliénation. D'où l'importance qu'on ne définisse pas quelqu'un comme femme ou comme homme de l'extérieur en lui apposant une étiquette infernale. L'homme tel que le conçoit l'existentialiste, s'il n'est pas définissable, « je suis ce que je ne suis pas, je ne suis pas ce que je suis », c'est qu'il n'est d'abord rien. Il ne sera qu'ensuite, et il sera tel qu'il se sera fait. Ainsi, il n'y a pas de nature humaine, puisqu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir. Là, nous retrouvons un thème fondamental de toutes nos rencontres précédentes. Pour qu'une morale soit possible, est-il possible qu'une morale se réalise sans un monde qui la rende possible ? Ça, c'est une des questions que nous avons fait courir tout au long de nos rencontres. Et puis, nous avons vu que cette question... Pour qu'une morale soit possible, il faudrait qu'un monde la rende possible. Or, le monde est apparemment indifférent. Donc, on a dit, ça renvoie à une cosmologie, ça renvoie à une anthropologie et ça renvoie à une théologie. Car pour qu'un monde sensé où une liberté peut cheminer moralement soit possible, encore faut-il qu'il y ait un Dieu. Et s'il n'y a pas de Dieu, évidemment, la liberté est, qui est sans excuse, est en même temps sans définition et livrée à elle-même. L'homme est seulement, non seulement tel qu'il se conçoit, mais tel qu'il se veut, non pas sur le plan mental, mais tel qu'il s'est fait, et comme il se conçoit après l'existence, comme il se veut après cet élan vers l'existence. Et là, vous reconnaissez tous les thèmes qui nous sont familiers, puisque cet élan vers l'existence, c'est ce que l'on appelle le projet. Mot terriblement à la mode dans nos consciences. L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait, tel est le premier principe de l'existentialisme. C'est aussi ce qu'on appelle la subjectivité, et que l'on nous reproche sous ce nom même. Mais que voulons-nous dire par là, sinon que l'homme a une plus grande dignité que la pierre et que le chou, non que la table. Voilà ce que veut dire sujet. Subjectivité ne veut pas dire subjectivisme, mais veut dire le sujet est premier parce qu'il est entièrement responsable de soi. À la différence de l'objet qu'il se définit de l'extérieur. Si vous voulez un exemple, si vous n'avez toujours pas compris la distinction malgré mes efforts sujet-objet, celle qu'on appelle la femme-objet est celle qui précisément a sa définition, elle est en dehors d'elle. Voilà. Et la femme-sujet serait celle qui est auteur de sa propre définition. Car nous voulons dire que l'homme existe d'abord, c'est-à-dire que l'homme est d'abord ce qui se jette vers un avenir, c'est ce que dit Pascal, nous sommes pleins de choses qui nous jettent hors de nous. Ce qui est conscient de se projeter dans l'avenir, l'homme est d'abord un projet, le sujet est un projet et non pas un objet. L'homme est d'abord un projet qui se vit subjectivement au lieu d'être une mousse, une pourriture ou un chou-fleur. Rien, ou une vache, rien n'existe préalablement à ce projet, rien n'est dans un ciel intelligible et l'homme sera d'abord ce qu'il aura projeté d'être. D'où cette idée donc d'un sujet totalement responsable de lui-même, d'où l'idée donc selon laquelle je suis non seulement responsable de moi, mais je suis responsable de tout. Car dès l'instant que je dirais « j'y suis pour rien », je suis de mauvaise foi. Donc la responsabilité est totale pour le sujet, mais elle est universelle par rapport à l'histoire, par rapport à la nature, etc. Dès l'instant que je dis « bon, la famine au Soudan, j'y suis pour rien », c'est vrai, j'ai les bras un peu courts pour agir sur la famine au Soudan. Mais dès l'instant que j'ai dit « j'y suis pour rien », au fond, j'en suis complice. Et je suis dans la mauvaise foi de celui qui s'exempte de sa responsabilité au prétexte que sa liberté serait trop courte. Et c'est ici que Sartre fonde une morale. Car ce qui fonde une morale, c'est que ce que je choisis pour moi-même, alors je le choisis pour tous. Je ne peux pas dire « c'est bon pour moi et pas bon pour les autres ». Et donc, dès que l'homme se choisit lui-même, il choisit l'humanité en lui. Il choisit tout l'homme. Sartre dit « je ne peux pas dire « je me marie, mais c'est bon pour moi, c'est pas bon pour les autres ». Celui qui se marie pose le mariage comme bon pour tous. Et il réalise dans son projet l'humanité tout entière. C'est la raison pour laquelle, évidemment, le sentiment de la liberté est simultanément angoisse, bien entendu, puisque j'ai les bras fort courts pour atteindre des exigences aussi immenses. Donc, d'une certaine manière, je suis écrasé par cette liberté, ma liberté et mon destin en même temps. Car je suis écrasé par cette liberté qui me rend responsable de tout. Remarquez que nous sommes actuellement, je suis en train de vous décrire ce que nous vivons, puisque nous vivons bien dans une culture qui nous rend bel et bien responsable de tout. Et ce n'est pas faux, car la première solidarité que j'ai au moins à avoir avec les populations du Soudan, c'est de ne pas vouloir ignorer. La première fraternité que je peux avoir avec eux, c'est de savoir ce qui se passe au Soudan. Si je dis « oh, je ne veux pas le savoir », je suis complice de l'oppression. Donc la volonté d'ignorer est mauvaise foi et exemption de la liberté. Donc dès que la liberté surgit, elle est totale, sans excuse et responsable de l'homme tout entier. Quand je me réalise, je réalise aussi en moi l'homme tout entier, et c'est ce qui fait que je suis non seulement responsable de moi, mais responsable de tous. Vous voyez que, au fond, ici, liberté et destin coïncident. D'ailleurs, Sartre utilise une formule, de toute façon, toutes les formules de Sartre sont célèbres, elles sont toutes parvenues jusqu'à nous, même à ceux qui ne font pas trop de philosophie, lorsque Sartre dit « je suis condamné à être libre ». Et je suis condamné à être libre précisément parce que je suis devenu, par ma liberté, étranger à ce monde. Il y a le monde des choses et il y a l'avènement de la liberté. Cette liberté fait de moi un étranger en ce monde, un bâtard. Je suis un bâtard. C'est la raison pour laquelle Sartre a toujours voulu vivre dans des hôtels, écrire dans des cafés, ne pas se marier, ne pas avoir le prix Nobel, etc. Car il n'a jamais voulu être chez soi. Je ne suis pas chez moi. Je suis jeté dans le monde. Et ce qui prouve que je suis jeté dans le monde, c'est que ma liberté est totale et qu'en dehors d'elle, elle ne trouve aucune confirmation des choix qu'elle fait, d'où son extrême solitude. C'est ce qui est évoqué dans, ce que j'ai choisi d'évoquer par l'extrait des mouches auquel j'ai donné le titre « Le bâtard ». Dans les mouches, Sartre reprend l'histoire des Atrides et donc l'épisode dans lequel Oreste venge son père en tuant sa mère et l'amant de sa mère, Égiste, avec la complicité d'Électre. Et puis, à travers les mouches, Sartre évoque ce qu'on appelle dans la mythologie grecque les Irinies, c'est-à-dire les furies qui poursuivent le coupable, qui poursuivent justement le sujet du remords indéfini. La scène survient lorsque Oreste et Électre, après leur crime, sont épuisés, abattus, rendus au sol, arrivent Jupiter. Oreste, je suis Jupiter. Oreste, je t'ai créé et j'ai créé toute chose. Regarde, vois ces planètes qui roulent en ordre sans jamais se heurter. C'est moi qui en ai réglé le cours. Selon la justice, on reconnaît des thèmes qu'on a vus dans les chapitres précédents. Entends l'harmonie des sphères, cet énorme champ de grâce minérale qui se répercute aux quatre coins du ciel. Par moi, les espèces se perpétuent. J'ai ordonné qu'un homme engendre toujours un homme, que le petit du chien soit un chien. Par moi, la douce langue des marées vient lécher le sable et se retire à heure fixe. Un peu plus loin, tu n'es pas chez toi, intrus. Tu es dans le monde, comme l'écharde dans la chair, comme le braconnier dans la forêt seigneuriale. Car le monde est bon, je l'ai créé selon ma volonté, et je suis le bien. Mais toi, tu as fait le mal, et les choses t'accusent de leur voix pétrifiée. Le bien est partout, c'est la moelle du sureau, la fraîcheur de la source, le grain du silex, la pesanteur de la pierre. Tu le trouveras jusque dans la nature du feu et de la lumière. Ton corps même te trahit, car lui, il se conforme à mes prescriptions. Le bien est en toi, hors de toi. Il te pénètre comme il faut, il t'écrase comme une montagne. Il te porte et te roule comme une mer. C'est lui qui permit le succès même de ta mauvaise entreprise, car il fut la clarté des chandelles, la dureté de ton épée, la force de ton bras. Et ce mal dont tu es si fier, dont tu te nommes l'auteur, qu'est-il sinon un reflet de l'être, un faux fuyant, une image trompeuse dont l'existence même est soutenue par le bien? Rentre en toi-même, Oreste. L'univers te condamne. Tu es un ciron dans l'univers, allusion à Pascal. Rentre dans la nature, fils dénaturé, connais ta faute, arrache-la de toi comme une dent cariée, ou redoute que la mer ne se retire devant toi, que les sources ne se tarissent sur ton chemin, que les pierres et les rochers ne roulent hors de ta route et que la terre ne s'effrite sous tes pas. Oreste. Eh bien, qu'elle s'effrite. Que les rochers me condamnent, que les plantes se fanent sur mon passage. Tout ton univers ne suffira pas à me donner tort. Tu es le roi des dieux, Jupiter, le roi des pierres et des étoiles, le roi des vagues et de la mer, mais tu n'es pas le roi des hommes. Je ne suis pas ton roi, larve impudente. Qui donc t'a créé? Toi, mais il ne fallait pas me créer libre. Je t'ai donné la liberté pour me servir. Il se peut, mais elle s'est retournée contre toi et nous n'y pouvons rien, ni l'un ni l'autre. Enfin, la voilà, l'excuse. Je ne m'excuse pas. Vraiment, sais-tu qu'elle ressemble beaucoup à une excuse, cette liberté dont tu te dis l'esclave? Je ne suis ni le maître ni l'esclave, Jupiter, je suis ma liberté. À peine m'as-tu créé que j'ai cessé de t'appartenir. S'il existait un Dieu, il existerait quelqu'un pour qui nous sommes un objet. La célèbre formule de Sartre, « l'enfer, c'est les autres », signifie que ce qui peut me ramener à un objet, c'est le regard des autres. C'est sous le regard des autres que j'ai une définition. Que je suis un homme ou une femme, que je suis un vieux ou un jeune, que je suis un bossu ou un homme en bonne santé, etc. Et au fond, Dieu, c'est le super autrui. Le fameux Dieu de Victor Hugo, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn, celui qui, à tout moment, dans son rayon de lumière, a la capacité de me traiter comme un objet. Et or, si je suis précisément ce que je ne suis pas, et si je suis sans essence, et si je suis totalement et sans excuse responsable de moi-même, ce n'est pas tant que Dieu n'existe pas, c'est qu'il serait totalement inutile qu'il y ait un Dieu, car il serait totalement inutile qu'il y ait quelqu'un qui me regarde comme objet, il ne peut rien pour moi, car je suis sujet. C'est mon destin, et c'est, simultanément, ma liberté suprême. D'où l'idée fondamentale, les idées fondamentales de choix, d'engagement, par lesquelles, de décision, tout thème existentialiste autour desquels Sartre tourne, donc décision par laquelle le sujet donc, advient à lui-même, se définit lui-même. La notion d'engagement doit bien être comprise comme le fait pour un sujet d'assumer une situation. Il faut bien comprendre la notion de situation. Vous savez que c'est aussi un mot-clé de Sartre. C'est même le titre qu'il a donné à ses recueils d'articles. Et puis c'est aussi maintenant pour nous devenu un mot-clé. Pourquoi Sartre utilise-t-il ce mot de clé de situation ? Pour le distinguer et pour l'opposer à la notion de conditionnement. Je ne suis pas conditionné, je suis en situation. Par exemple, je suis né de sexe masculin. Le 12 mai 1926, j'aurais pu être d'un autre sexe, je suis né de sexe masculin. Je pourrais dire, si j'étais de mauvaise foi, je suis conditionné par le fait que je suis de sexe masculin. Ma liberté est d'emblée lestée par ma nature. J'aurais une nature masculine et c'est comme ça que les objectivistes traduisent le rapport du monde au sujet comme un conditionnement. Conditionné par les climats, conditionné par la classe sociale, conditionné par l'économie, conditionné par la biologie, conditionné par mon être incarné. Mais si je suis conditionné, l'idée de liberté est inintelligible. Puisqu'on a vu que la liberté est sans degré et sans parti. Donc ça serait insensé, ça n'aurait pas de sens de dire « Bon, ben là, le conditionnement va jusque-là, puis là, il s'arrête, et puis après, c'est la liberté. » Ça serait grotesque, puisque ça voudrait dire précisément qu'on délimite la liberté. Si on délimite la liberté, elle n'est pas la liberté. Donc, le monde, la classe sociale, l'économie, ma biologie ne me déterminent pas au sens d'une cause. En revanche, ils me mettent en situation. Cette situation est précisément une situation à la lumière de ce que je deviens. Par exemple, le sac à dos, c'est l'exemple de Sartre. Sartre a le génie des bons exemples. Il y a un excellent exemple de Sartre qui dit, par exemple, le sac à dos qui pèse sur moi, qui fait que dans cette randonnée, je sue, j'en bave, j'ai mal de partout, etc. C'est une situation. L'un pourra dire, j'en peux plus, je m'arrête. L'autre trouve même une certaine satisfaction à avoir mal et à suer, car c'est là aussi qu'il s'éprouve. Et donc, ce sac à dos n'est pas une cause. Il n'y a pas de cause à une liberté. Il n'y a pas de rapport cause-effet pour une liberté. Ce sac à dos est une situation. Et cette situation sera éclairée par la finalité que je me suis donnée. Si la finalité que je me suis donnée, c'est le sens de l'effort, de l'aventure, le sac à dos me fait éprouver une certaine jouissance. Si la finalité que je me suis donnée, c'est de boire un verre de Coca-Cola, le sac à dos devient insupportable. On sait bien qu'en randonnée, il n'y a rien de pire que celui qui commence à dire « j'ai soif ». C'est la liberté elle-même qui va faire de la situation une orientation ou pas. Et pour le prisonnier torturé, sa torture n'est pas un conditionnement, car il peut toujours refuser de céder à la torture. La torture est une situation. Et il a toujours, théoriquement et indéfiniment, la possibilité de ne se pas soumettre. Et donc, je ne peux pas dire que ici s'arrête la liberté. À tel degré de torture, la liberté s'arrête. Alors, il faudrait un doloromètre. Puis on dit, bon, arrivé à tel degré de douleur, la liberté s'arrête. Ça n'a aucun sens. Il y a des gens qui cèdent à une égratignure et des gens qui ne céderont pas aux tortures les pires. Il n'y a donc pas de rapport de conditionnement, il n'y a pas de rapport de déterminisme, ni du monde à l'égard de ma liberté, ni même d'ailleurs de moi-même à l'égard de ma liberté. Cette notion de situation est vraiment une notion fondamentale pour éviter de... Parce que je suis toujours très triste quand Sartre est un auteur beaucoup caricaturé, particulièrement dans les milieux cathos, dans ce qu'ils ont de plus désagréable. C'est lamentable de caricaturer Sartre. Et par exemple, de dire, bon, Sartre dit que l'homme peut être n'importe quoi. Non, il dit, je suis en situation. Cette situation, elle fait que j'ai une histoire, mais pas que j'ai un déterminisme. Et donc la condition ouvrière devient insupportable à qui se révolte. La condition ouvrière n'est pas en elle-même un mécanisme qui va induire la révolte ou la passivité. Et c'est tout le conflit de Sartre, bon, assez compliqué, avec le marxisme. De la même manière, c'est le conflit de Sartre avec la psychanalyse, puisque vous savez que Sartre a développé, avec beaucoup de pertinence, je trouve, ce qu'il appelle la psychanalyse existentielle. C'est-à-dire que, au lieu de dire « c'est mon inconscient qui m'a fait faire, c'est l'inconscient qui l'a poussé à pousser à, c'est sa situation infantile qui l'a déterminé, qui l'a conditionné ». Déterminé et conditionné sont des mots impossibles, car ma propre enfance, c'est moi qui la relie. C'est justement ce que montre la psychanalyse. Ce n'est pas que c'est mon enfance qui me détermine, c'est que mon enfance, c'est moi qui me la raconte. Et par la manière même dont je me la raconte, je deviens moi-même. Et c'est la raison pour laquelle Sartre, dans des livres très brillants comme son Baudelaire ou son Flaubert, montre, par exemple, comment Baudelaire a choisi d'être Baudelaire. Qui est Baudelaire ? Baudelaire est celui qui a choisi d'être Baudelaire. C'est-à-dire qu'il a choisi la syphilis, le conseil de famille, les dettes, la débilité, tout. Et puis les poèmes. Et donc, ce qui est intéressant, ce n'est pas comprendre comment Baudelaire a été conditionné par son époque ou conditionné par son méchant beau-père. C'est comprendre comment Baudelaire a choisi d'avoir un beau-père qui le conditionnait, c'est-à-dire comment Baudelaire a choisi d'être Baudelaire. Et à ce moment-là, donc, a choisi, d'une certaine manière, son propre destin. C'est ce qui nous conduit aussi... Cette idée donc sur laquelle la liberté est choix d'elle-même dans une situation, à comprendre l'importance de l'idée de valeur. La morale, donc, n'est pas fondée sur l'être, mais sur la valeur. Qu'est-ce que c'est que la valeur ? On peut dire de manière scolaire, banale, que la valeur, c'est ce par quoi on justifie un acte. Ce qui, justement, distingue de l'excuse ou de la cause. Donc, si je dis « je l'ai fait parce que », je l'ai fait pour défendre la justice, je l'ai fait pour défendre la patrie, je l'ai fait pour défendre la famille, à ce moment-là, dans l'explication que je donne, je fais émerger ce qu'on appelle une valeur, c'est-à-dire la part universalisable de mon acte. Dès l'instant que je dis « j'ai agi pour la justice », je dégage dans mon acte en situation la part universalisable, celle qui me permettra d'assumer ma responsabilité et de rendre compte de cet acte devant les autres. Le mot « valeur » est un mot difficile et embarrassant qui nous vient d'ailleurs de l'économie. C'est assez intéressant qu'il nous vienne de l'économie, le mot « valeur ». Parce que dans l'origine économique du mot « valeur », il y a bien cette idée que, au fond, la mesure des choses est lié à des échanges, est lié à des situations sociales, est lié à des contextes collectifs. Et donc, il n'y a pas plus de valeur objective qu'il n'y a de prix objectif. Il n'y a pas un prix objectif des choses. Un prix, est-ce que l'on se rend capable de promouvoir dans une situation donnée ? Et donc, quand on a pris conscience qu'au fond, dans une conduite humaine, on ne produisait pas des choses, mais des valeurs. Quand je fais un cours, je ne produis pas une chose, je produis une valeur. Quand je fais une chaise, je ne produis pas une chose, mais je produis une valeur. Quand je fais une voiture, je ne produis pas une chose, mais je fais une valeur. Quand je coupe des cheveux, je ne produis pas une chose, mais une valeur. Et que c'est cette valeur qui va permettre à la liberté de s'accomplir, de se réaliser dans son acte. Donc la valeur, je disais, c'est la part universalisable de l'acte et ce qui la justifie. C'est pourquoi je reviens rapidement sur l'opposition de l'être et de la valeur. Il y a une très belle pensée d'Alain qui dit « Il faut rendre justice parce qu'elle n'est pas. Il faut faire la justice parce qu'elle n'est pas. Le monde n'est pas juste. Et donc il faut que... Et la justice n'adviendra dans le monde que par des libertés. Donc la valeur, c'est ce qui n'advient dans le monde que par des libertés. Et c'est là, évidemment, qu'on est aux antipodes de la sagesse antique. Voyez, je reviens un moment à la sagesse antique. Rappelez-vous le cours sur Épicure. Vous ne vous le rappelez pas, vous avez tort. Donc Épicure nous dit, regarde bien les choses, ajuste-toi aux choses, contemple l'ordre des choses. Pour le peu que tu peux en percevoir, essaye de t'y loger et d'y trouver tes limites. On a vu l'obsession de la limite chez Épicure, la détestation de l'infini chez Épicure. Là, on est aux antipodes, on a un autre monde. La liberté est infinie, aucune limite n'est assignable, sauf mauvaise foi. Et précisément parce que, j'aurais beau regarder l'ordre des choses, je n'y verrai pas de valeur. Fumer, tu. Et exister, c'est être dépourvu d'essence, dépourvu de définition. Donc l'existence précède l'essence. Alors on peut dire que ce que poursuit le sujet pour exister, c'est précisément la valeur. Ce à travers quoi il pourra se réaliser. En ce sens, donc, on peut dire que la valeur est à réaliser et que c'est précisément pourquoi elle n'est pas. Rappelez-vous le premier cours, si vous y étiez, sur Aristote. Dans le premier cours sur Aristote, j'avais tenté de définir l'excellence et la vertu. Et puis j'avais pris de manière répétitive cet exemple qui vaut ce qu'il vaut, mais il est dans Aristote. C'est pas un sitariste, ça. Pourtant, il joue de la sitar. Donc on voit un gars qui joue de la sitar et on dit « c'est pas un sitariste ». Manifestement, il manque à la définition du sitariste. C'est pas un sitariste. Il gratouille de la sitar, mais il a raté la définition du sitariste. Au contraire, quelqu'un de vertueux, c'est quelqu'un dont on dit « ça, c'est un sitariste ». Quand on dit de quelqu'un c'est un bon sitariste, c'est pas encore très bon pour lui. Ça n'est vraiment excellent que le jour où on peut dire ça, c'est un sitariste. Oui, mais l'expression ça, c'est un sitariste suppose en quelque sorte que la définition du sitariste est déjà là. Le sitariste pourrait aussi bien dire et s'il me plaît à moi de jouer de la sitar ainsi ? Et s'il me plaît à moi d'accomplir autrement les capacités d'une sitar et les enchantements infinis du pincement ou du grattement, je ne sais pas ce qu'on fait avec des cordes de sitar. La sitar ne me conditionne pas, la sitar ne comporte aucune définition, je vais inventer la manière de devenir sitariste. C'est d'ailleurs pourquoi nos contemporains parlent à propos de beaucoup de choses, de création, créativité. C'est-à-dire, je ne vais pas m'ajuster à une définition préalable, mais j'invente ma manière de jouer de la sitar. Je deviens sitariste. Je ne suis pas sitariste. Je deviens sitariste. Je ne suis pas une femme. Je deviens une femme. Rien n'est plus agaçant que les malentendus sur la formule de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir ne dit pas autre chose que « je deviens une femme ». Donc, dans mon devenir femme, je suis responsable de ma féminité. Simone de Beauvoir ne dit pas qu'il n'y a pas de féminité, je n'en sais rien. Elle dit « je suis responsable de ma féminité, je deviens femme ». Eh bien oui, je deviens femme comme je deviens sitariste, comme je deviens prof de philo ou gâteux. Ou les deux en même temps, comme vous l'avez remarqué. Je vous remercie beaucoup. Alors, lisons cette dernière page que je propose, qui est un peu difficile, ça vous permettra de voir que la philosophie n'est pas toujours aussi facile qu'on le croit, dans lequel Sartre définit la valeur dans l'être et le néant. Nous pouvons à présent déterminer avec plus d'honnêteté ce qu'est l'être du soi, le sujet. C'est la valeur. La valeur est l'être du sujet qui manque d'être. La valeur, en effet, est affectée de ce double caractère que les moralistes ont fort incomplètement expliqué, d'être inconditionnellement, puisqu'elle est absolue, et de n'être pas, car l'absolu n'est pas. La valeur est absolue, elle est illimitée, je ne peux pas dire ça dépend. Mais son absoluité fait que simultanément, elle n'est pas dans l'ordre des choses. Je ne vais pas trouver une valeur dans l'ordre des choses, je ne vais pas constater une valeur. Une valeur ne se constate pas, elle se crée. Et elle se crée comment ? Dans un acte. Je ne vais pas défendre la justice comme si la justice préexistait. C'est à moi d'être juste. Et la justice n'existe pas en dehors de l'acte par lequel je suis juste. Et s'il n'y avait personne de juste, la justice n'existerait pas. La valeur, en effet, est affectée de ce double caractère d'être inconditionnellement, c'est-à-dire d'être absolu. Ça, on l'avait vu avec Kant. Hein. Et donc, c'est le caractère inconditionnel du devoir. Et de n'être pas. En tant que valeur, en effet, la valeur à l'être. Mais cet existant normatif n'a précisément pas d'être en tant que réalité, c'est-à-dire qu'il n'est pas observable dans l'ordre des choses. Son être est d'être valeur, c'est-à-dire de n'être pas être. Ainsi, l'être de la valeur en tant que valeur, c'est l'être de ce qui n'a pas d'être. Ce qui fait écho à ce que nous avons dit au début de notre petite rencontre de ce soir, quand je dis le sujet, c'est je suis ce que je ne suis pas et je ne suis pas ce que je suis. La valeur semble donc insaisissable. À la prendre comme être, on risque de méconnaître totalement son irréalité et d'en faire, comme les sociologues, une exigence de fait parmi d'autres faits. Et du coup, de confondre la morale, comme les sociologues, avec les usages sociaux, observables. En ce cas, la contingence de l'être tue la valeur. Mais inversement, si on n'a Dieu que pour l'idéalité des valeurs, on va leur retirer l'être, et faute d'être, elles s'effondrent. Donc d'un côté, les valeurs ne sont pas observables, de l'autre part, si elles n'ont pas d'être, elles sont nulles. Où sera donc le lieu où l'être ou les valeurs s'accomplissent ? En moi. La valeur n'existe pas dans le ciel des idées, elle n'existe pas dans une bibliothèque, elle n'existe pas dans une église, dans une mairie ou dans un code. Il y en a un seul qui soit responsable de l'avènement de la valeur, c'est moi. Je ne peux pas dire aux autres d'essayer. Je ne peux pas dire, tiens, tu pourrais incarner la justice, s'il te plaît, là. Il y en a un seul qui puisse incarner la justice, c'est moi. Et donc nous sommes dans un discours hyper moral. Nous sommes dans le discours le plus moral. C'est pour ça que j'ai commencé par introduire Sartre comme essentiellement moraliste. La charge de la valeur ne se délègue pas, car il y a un seul checkpoint Charlie de l'irréel de la valeur à sa réalité, c'est moi. Bon, il y a un épisode, par exemple, dans le mur. Alors, bon, Sartre, dans le mur, il y a une nouvelle qui est assez saisissante, dans laquelle un personnage est torturé, on lui demande de dire où sont ses compagnons de combat. Il en a un peu marre de la torture, on le comprend. Et moitié pour rigoler et moitié pour échapper à la torture, il dit « Oh, vous trouverez notre chef dans le caveau de la famille Intel dans le cimetière. » Les tortionnaires vont dans le cimetière, ouvrent le caveau de la famille Intel et que trouvent-ils ? Le chef. Alors, évidemment, l'histoire a une nuance magique. Mais en même temps, elle veut bien dire qu'au fond, la liberté s'était déjà elle-même effondrée et qu'elle avait déjà elle-même posé la trahison comme valeur ou aboli la fidélité comme valeur et que ce soit pour rigoler ou pas, la liberté a déjà scellé son destin et a déjà accompli la non-valeur ou accompli une autre valeur. Je suis sans excuse et je ne peux pas dire aux autres d'essayer. Je suis le seul par lequel la valeur advient. Ça, c'est une thèse fondamentalement existentialiste. C'est la thèse de Kierkegaard. Je suis le seul par lequel la thèse de Kierkegaard, je l'évoque en trois mots, justement ce que j'ai essayé de dire, la tâche de la vérité ne se délègue pas. Je ne peux pas dire, si vous voulez savoir ce que je pense, allez le demander à Rome. Ça serait bien pratique, remarquez, j'aimerais bien. Il y avait un député qui avait répondu ça, paraît-il, du temps où le député catholique s'affichait, qui avait répondu, si vous voulez savoir ce que je pense, demandez-le à Rome. C'est une superbe réponse provocante, mais au fond assez inexacte quant au statut même de la vérité, parce que la vérité est ce dont est-ce que je suis le seul à pouvoir attester. D'où la fameuse formule de Kierkegaard si mal comprise, la vérité est subjectivité, c'est-à-dire le sujet est le seul par lequel la vérité advient. Je ne peux pas dire aux autres d'essayer. Sans doute, puis-je, nous sommes aux environs de la ligne 10, j'en sais rien. Sans doute, puis-je, comme Scheller l'a montré, atteindre à l'intuition des valeurs à partir d'exemplifications concrètes. C'est ce que font les héros. Les héros incarnent la valeur. Donc, le courage, le patriotisme, la liberté, etc. Donc, j'ai pas de la valeur. La valeur n'a pas d'être, mais elle a des exemples. Mais ces exemples ne sont qu'une invitation à les suivre. Sinon, c'est des images. Dans un livre, d'images. Mais la valeur ainsi appréhendée ne se livre pas comme étant de plein pied dans l'être avec l'acte qu'elle valorise, à la façon, par exemple, de l'essence rouge par rapport au rouge singulier. Elle se donne comme un au-delà des actes envisagés, comme la limite progression de, comme la limite, par exemple, de la progression infinie des actes nobles. Donc la noblesse n'est que la limite de tous les actes nobles. La valeur est par-delà l'être. Ce qui fait que je ne peux pas dire « ça, c'est un sitariste », voyez. Être un sitariste, c'est la limite de tous les actes de sitariste. Pourtant, si nous ne nous payons pas de mots, il faut reconnaître que cet être qui est par-delà l'être possède au moins l'être en quelque façon. Ces considérations suffisent à nous faire admettre que la réalité humaine est ce par quoi la valeur arrive dans le monde. Voilà la thèse. Si les hommes n'existaient pas, il n'y aurait dans ce monde ni bien ni mal. Les escargots, les cataractes, les astres qui roulent en silence ne sont ni bien ni mal si la valeur n'advient que par la présence de l'homme. Or, la valeur a pour sens d'être ce vers quoi un être dépasse son être. Tout acte valorisé est arrachement à son être vers quelque chose. La valeur étant toujours et partout le par-delà de tous les dépassements, peut être considérée comme l'unité inconditionnée, la formule est reprise de Kant, comme l'unité inconditionnée de tous les dépassements d'être. Par là, elle fait couple avec la réalité qui originellement dépasse son être et par qui le dépassement vient à l'être, c'est-à-dire avec la réalité humaine. Et l'on voit aussi que la valeur étant l'au-delà inconditionné de tous les dépassements, transcendante, toujours plus loin, doit être originellement l'au-delà de l'être lui-même qui dépasse, car c'est la seule manière dont elle puisse l'être, être l'au-delà originel de tous les dépassements possibles. Quatre lignes à partir de la fin. Elle est l'au-delà qui dépasse et fonde tous mes dépassements, ce vers quoi je ne peux jamais me dépasser, puisque justement mes dépassements la supposent. Et voilà une belle définition de la valeur. Elle est le manqué de tous les manques. La valeur, c'est le soi en tant qu'il hante le cœur du pour-soi. Le pour-soi, c'est le sujet, comme ce pourquoi il est. La valeur, c'est le manqué. C'est-à-dire, personne ne peut dire qu'il est adéquat à la valeur. Personne ne peut dire qu'il incarne la valeur. C'est ce qui lui manquera toujours. Ça fait singulièrement penser à la définition. Donc, vous voyez, on a remplacé le mot « essence » par le mot valeur, le mot définition, par le mot valeur qui comporte en lui un impératif. Assez curieusement, on pourrait, certains s'y sont aventurés, je crois qu'ils n'ont peut-être pas tort, assez curieusement rapprocher cela d'Aristote, figurez-vous. Car lorsqu'Aristote définit l'essence, vous le savez, il la définit comme toti en einai. La formule n'a jamais paru beaucoup claire, même à ceux qui connaissent le grec. Personne n'a su vraiment traduire « toti en einai ». Pourquoi ? Parce que ça comporte un imparfait. Ce qui, alors la traduction, ça serait « ce qui avait à être ». Donc, Aristote est d'accord, l'essence, c'est ce qui est toujours manqué. « Toti en einai », ce qui avait à être, ce que le sitariste avait à être. Trop tard, il l'a raté. C'est toujours, l'essence est toujours le raté d'un être en puissance. Alors, chez Aristote, c'est la distinction de l'être en puissance et de l'être en acte. Ce qui fait que pour l'être en puissance, l'accomplissement de l'essence, c'est toujours le raté, au fond.
C'est une thèse étrangement existentialiste.
On n'en sait pas assez sur Aristote pour forcer le parallèle. Mais enfin, ça éclaire quelque peu le caractère énigmatique de la formule aristotélicienne qui définit curieusement l'essence en utilisant un imparfait, toti en einai, ce qui était, ce qui le quelque chose qui était, le quelque chose qui était être. Bon, vous débrouillez-vous. Personne n'a su trouver de traduction adéquate. Voilà donc pour conclure ce développement sur Sartre, un effort sublime et maximum pour penser le destin d'une liberté logée en étrangère dans le monde. Le destin d'une liberté qui n'aurait pas de raison de trouver de signes dans le monde. Une liberté dans un monde privé de signes. En ce sens, une liberté dans un monde privé de signes, c'est bien cet héroïsme athée sous-jacent à toute l'œuvre de Sartre qui doit assumer, vous voyez encore le mot, cette absence de signes lisibles dans les choses et assumer donc sa propre décision d'être dans une nature irréconciliée et sous un ciel vide qui me laisse à la fois si totalement libre et devant le destin effroyable d'être libre. Voilà, c'était cette aventure sartrienne que j'étais content de parcourir avec vous.